Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
À la demande de Ludivine, 15 ans, de Bourgogne et de Patricia, Franck Ferrand se penche aujourd'hui sur le cas d'une grande figure de la Révolution, Camille Desmoulins. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous aurez remarqué l'âge moyen de tous ces auditeurs qui nous demandent de traiter tel ou tel sujet. Ils sont vraiment tous très jeunes. Je les salue. Il y a des gens de tous les âges qui aiment l'histoire, il faut le dire, parce que souvent on se fait de fausses idées sur le sujet. Desmoulins est un petit peu resté dans l'ombre de Danton et d'autres monstres sacrés de la Révolution. Vous allez voir qu'il mérite qu'on s'intéresse à lui de plus près. Pour nous mettre dans l'ambiance, nous allons commencer par sa vie privée. Pour la vie publique, je fais confiance à Guillaume Mazot.
Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Salima, qui nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission. Elle voudrait connaître l'origine des autoroutes.
Eh bien, ça tombe bien, j'en parlais chez Thomas Soto il y a quelques jours. Pour le moment, nous allons plutôt prendre la direction des faubourgs parisiens et des jardins du Palais Royal, dans l'espoir d'y retrouver Monsieur Camille.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Qui sont-ils, nos deux tourtereaux? C'est une idylle romantique que je vous propose, ou pré-romantique en tout cas, puisqu'on est en pleine tempête révolutionnaire. Camille Desmoulins est un jeune avocat, journaliste, dont on dit souvent qu'il est à l'origine de la prise de la Bastille le 14 juillet 1789. On va voir ce qu'il faut en penser. La jeune femme s'appelle Lucille. Elle est insouciante. Elle a 10 ans de moins que lui. Elle a 10 ans de moins que Camille. Et ensemble, ils vont donc traverser les événements de la Révolution avec l'euphorie des débuts, cette période grisante, extraordinaire, où Desmoulins gagne une notoriété incroyable par sa plume de journaliste, où il va jouer un rôle essentiel dans un certain nombre de moments décisifs. Je pense notamment à la prise des Tuileries en 1792. Mais aussi les périodes plus sombres, la terreur notamment, où le couple sera mis à rude épreuve. Alors, qui est d'abord Camille Desmoulins? Qui est-il ce Lucie Simplice, Camille Benoît Desmoulins, qui naît à Guise, en Picardie, le 2 mars 1760, au beau milieu du règne de Louis XV? Eh bien, c'est un jeune bourgeois de province, disons les choses. Son père, Jean Desmoulins, est lieutenant au bailliage de Guise, c'est-à-dire qu'il exerce une profession juridique. C'est intéressant d'ailleurs de noter la surreprésentation de ces professions juridiques qui, d'une certaine manière, vont fournir le gros de ce qu'on pourrait appeler le personnel révolutionnaire. Camille est un très bon élève puisqu'il va obtenir une bourse afin d'aller faire ses études dans ce qui est à l'époque le plus grand collège de France, le collège Louis le Grand. Et d'ailleurs là, à Louis le Grand, parmi ses camarades, il y aura un certain Maximilien de Robespierre. Camille étudie donc le droit, il devient avocat en 1785. Seulement, vous avouerez que pour un avocat, il a quand même un petit problème, c'est qu'il a le plus grand mal à s'exprimer. Il bégaye, il bute sur les mots, ce qui évidemment dans un prétoire ne fait jamais très bon effet. Du coup, il n'a pas vraiment de clientèle. Quand je dis qu'il n'en a pas vraiment, pendant longtemps, il n'en a pas du tout. Avocat sans cause, nous dit André Castelot. Il était pauvre et gagnait sa vie en copiant des requêtes pour les procureurs. On riait un peu de lui au palais, car cet avocat bégayait et commençait ses phrases par des malheureux incompatibles avec le prétoire. Quand il avait trop faim, il partait pour Guise, où vivaient ses parents. Il faut vous dire que, par ailleurs, et en dehors de ces plaidoiries qu'il n'a même pas à prononcer, Desmoulins écrit, mais qu'il écrit des poèmes, il écrit du théâtre, on est dans cette espèce de grand moment un peu lyrique, vous savez, où on renoue avec les lettres dramatiques. Camille Desmoulins est un petit peu plus chanceux sur le terrain de l'amour, il faut bien le dire. Beaucoup plus chanceux, on va s'en rendre compte. En 1783, à Paris, il a fait une rencontre qui, il l'ignore encore à l'époque, mais qui va changer sa vie. Il demeurait à l'hôtel de Pologne, rue Saint-André-des-Arts, nous dit Castelot. Par la fenêtre, il regardait une petite voisine de 13 ans, jolie comme un cœur, blonde comme un rayon de soleil. Oui, 13 ans, hein, c'est une bien jeune adolescente dans un premier temps. Elle est toute mignonne, menue, élégante, avec des traits délicats, de très grands yeux en amande. Elle se promène souvent avec sa sœur et surtout avec sa mère, au jardin du Luxembourg. J'insiste sur la mère parce que c'est elle dont notre Camille va dans un premier temps tomber amoureux. La mère s'appelle Madame Laridon du Plessis. Et donc la petite, elle, c'est Anne-Lucille Philippe. Tout le monde l'appelle Lucille. Son père est premier commis du contrôle général des finances. Alors là, on n'est plus du tout dans la même bourgeoisie. Là, on monte de 3 ou 4 étages d'un coup. On est dans la grande et belle bourgeoisie parisienne, milieu très aisé. Vous avez bien compris que Desmoulins, lui, à l'époque, est encore étudiant. Il arrive de sa province, il est sans le sou. Et puis, bon, il y a cette énorme différence d'âge, en tout cas dans les tout débuts, puisqu'elle a 10 ans de moins que lui. Du reste, encore une fois, c'est pas d'elle du tout qu'il est amoureux. Il est quand même pas amoureux d'une petite fille. C'est de la mère, Anne-Françoise. Et il est fou d'elle, en vérité, Camille. Il lui fait la cour. C'est vrai que cette femme a la réputation d'être une des beautés du Paris de l'époque. Du coup, il n'a pas vraiment remarqué dans un premier temps, dans le sillage de la belle dame, cette petite fille qui se cache plus ou moins dans les jupes de sa mère. Au fil des mois et des années, Camille va se rendre compte qu'il n'arrive pas à séduire du tout Madame. Alors il va s'intéresser à Mademoiselle d'une certaine manière, qui entre-temps est devenue une belle adolescente. Elle a 17 ans maintenant. En mars 1787, Camille prend sa décision. Il va épouser Lucille. Seulement, pour ça, il faut l'autorisation des parents, bien entendu. Et le père de Lucille refuse. Desmoulins n'a pas de situation, ce n'est pas suffisant. Alors, Camille est tellement furieux qu'il va écrire à son père une lettre qui est restée célèbre, qui mérite qu'on en lise un extrait. « Depuis 6 ans, écrit le jeune avocat sans le sou, je n'ai pas eu le nécessaire. Dites vrai, m'avez-vous jamais mis en état de n'avoir point à payer le loyer exorbitant des chambres garnies? Oh, la mauvaise politique que la vôtre, de m'avoir envoyé 2 louis à 2 louis, avec lesquels je n'ai jamais pu trouver le secret d'avoir des meubles et un domicile, qu'avec un domicile j'aurais été président, commandant de district, représentant de la commune de Paris ? Au lieu de quoi, je ne suis qu'un écrivain distingué. Envoyez-moi un lit si vous ne pouvez m'en acheter un ici. Est-ce que vous pouvez me refuser un lit ? Demande-t-il à son père. Évidemment, le mariage est mal parti quand on voit les choses sous cet angle. Depuis quelques mois, il faut vous dire que Desmoulins fréquente Versailles et les députés. Il y a eu les états généraux, la proclamation lors du serment du jeu de paume de l'Assemblée nationale. Donc, 2 jours avant la prise de la Bastille, on est le 12 juillet 1789, Camille apprend le renvoi du ministre Jacques Nècre, qui est le grand ministre de Louis XVI. Alors là, son sang ne fait qu'un tour et on connaît la scène parce qu'elle a été beaucoup, beaucoup montrée, racontée, peinte. Il brandit un pistolet, il se fait une cocarde avec les feuilles vertes des châtaigniers du jardin du Palais Royal et il crie « J'arrive de Versailles, Nècre est chassé, c'est le tocsin d'une Saint-Barthélemy des patriotes. Ce soir même, tous les bataillons suisses et allemands sortiront du champ de Mars pour nous égorgés, une ressource nous reste, c'est de courir aux armes et, en cherchant des armes, on prendra la Bastille. » Est-ce qu'il l'a dit aussi bien, aussi clairement, dès le 12 juillet 1789 ? Vous me permettrez d'émettre une petite réserve, mais en tout cas, c'est bien l'esprit de ce discours. Ce qui va faire de Desmoulins très bientôt, et c'est la réputation qu'il traînera désormais, on l'appelle l'homme du 14 juillet.
Maria Callas sur Europe 1 avec « J'ai perdu mon Eurydice », un extrait du célèbre opéra Orphée Eurydice de Gluck. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à Camille et Lucille Desmoulins.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire d'amour entre Camille et Lucille Desmoulins.
Alors, Camille Desmoulins n'est pas très bon à l'oral, mais vous avez compris qu'à l'écrit, il se défend. C'était une plume mordante, écrit Pedro Ramirez, qui vient d'écrire un livre qui fait un peu de bruit là en ce moment, qui s'appelle « Le coup d'État ». C'était une plume mordante, empreinte de rythme narratif et d'élégance littéraire, le style parfait pour la polémique politique, l'outil adéquat pour le journalisme d'opinion, dit notre auteur qui n'a pas peur des anachronismes en l'occurrence. Il écrit des pamphlets, Camille, il va fonder un journal en novembre 89, Les Révolutions de France et de Brabant, qui est un gros succès, qui se vend tout de suite à 3000 exemplaires, ce qui est beaucoup à l'époque. Et c'est cette publication qui va assurer à Desmoulins l'essentiel de ses revenus. Là, attention, il n'avait pas de moyens, mais d'un seul coup, le voilà doté de quelques 10 000 livres par an. C'est une vraie fortune. Desmoulins attaque la famille royale, il attaque les aristocrates, il attaque les modérés, on verra jusqu'où. Desmoulins devient, on peut dire, un petit peu le personnage incontournable de ce début de révolution. Il était le seul des grands acteurs de la révolution que tout le monde appela par son prénom et non par son nom de famille, nous dit Ramirez. Peut-être parce qu'il était aussi le seul de tous les révolutionnaires de la première heure en qui personne ne voyait de rival. En revanche, beaucoup voyaient en lui une sorte de petit frère aussi capricieux que brillant, aussi émotif que changeant, aussi loyal et engagé que panier percé, embrouilleur et doué pour s'attirer toutes sortes d'ennuis, libre comme l'oiseau, irresponsable comme un grand et turbulent enfant, Camille était un personnage romantique avant l'invention même du romantisme. Plus rien désormais ne s'oppose au mariage entre Camille et Lucille, qui est devenue célèbre à défaut d'être encore tout à fait riche, quoique... Depuis plusieurs mois, Lucille ne cesse d'envoyer des lettres enflammées à Camille. « Je n'ose m'avouer à moi-même ce que je sens pour toi, écrit-elle. Je ne m'occupe qu'à le déguiser. Tu souffres, dis-tu. Oh, je souffre davantage. Ton image est sans cesse présente à ma pensée. Elle ne me quitte jamais. Je te cherche des défauts. Je les trouve et je les aime. » Si ça, c'est pas de l'amour. Le consentement de la famille de Lucille est donc obtenu à la fin de cette année 1789 et un an plus tard, le 29 décembre 1790, Lucille Duplessis et Camille Desmoulins se marient donc à l'église Saint-Sulpice. C'est drôle que Dumoulin, d'ailleurs, se marie à l'église alors qu'il passe son temps à attaquer les prêtres dans ses feuilles. La mariée portait un corselet de satin rose avec une jupe évasée. Le marié étrennait un gilet blanc à fleurs brochées, s'il vous plaît. Parmi les témoins, on trouve Pétion, figurez-vous, l'étoile montante de l'Assemblée constituante, futur maire de Paris, Pétion. On trouve aussi un certain Maximilien de Robespierre, comme quoi vous voyez que les liens qui s'étaient peut-être noués à Louis le Grand ont eu des effets. Personne ne pouvait présager que 3 ans et demi plus tard, les mêmes protagonistes allaient se déchirer et tous, d'une manière ou d'une autre, finir sur l'échafaud. Lucille suit Camille dans un nouveau logement, 2 places du Théâtre Français, qu'on appelle aujourd'hui la place de l'Odéon. Très jolie place en demi-cercle à Paris. Cette période, c'est une jolie période pour eux. C'est l'amour, c'est les moyens, c'est la notoriété. Enfin, tout va très bien. Tout va très bien, sauf que, évidemment, à mesure qu'on avance dans la Révolution, les choses se corsent, bien entendu. La carrière politique de Camille se poursuit. En 1791, il entre au club des Cordeliers. En juillet 91, après la fameuse fusillade du Champ de Mars, où la garde nationale a tiré sur des manifestants qui demandaient la déchéance du roi, Camille Desmoulins se trouve recherché par la police. La publication de son journal est suspendue après 86 numéros. Alors il écrit, il en lance un autre qui va s'appeler La Tribune des Patriotes. Ça va être un échec, celle-ci. Desmoulins est obligé d'aller se cacher à Versailles, puis à Bourg-la-Reine. Il garde le silence. Il revient à Paris en octobre 1791. Et là, il y a ce discours du 21 octobre 1791 où Desmoulins se montre assez pessimiste à propos de l'évolution des événements. Cette position va le marginaliser de plus en plus d'ailleurs. Le 6 juin 1792, Lucille donne naissance à leur premier fils, enfin à leur fils Horace Desmoulins. Et puis le 6 septembre 1792, lui-même devient député de Paris à la Convention, comme Robespierre, Danton, Marat. On est encore là dans la période du bonheur. Le 10 août 1792, le peuple de Paris, vous le savez, s'empare du palais des Tuileries. Lucille suit Camille, si je puis dire. En tout cas, elle le rejoint. Je cite ce qu'elle raconte elle-même. Le 8 août, je suis revenu de la campagne. Déjà, les esprits fermentaient bien fort. On avait voulu assassiner Robespierre. Le 9, j'eus des Marseillais à dîner. Nous nous amusâmes assez. Après le dîner, nous fûmes tous chez Monsieur Danton. La mère pleurait. Elle était on ne peut plus triste. Son petit avait l'air hébété. Danton était résolu. Moi, je riais comme une folle. Il craignait que l'affaire n'eût pas lieu. Camille apparaît avec son fusil. Il annonce à Lucille qu'il part avec Danton pour l'hôtel de ville. Elle est en pleurs. On est dans le bouillonnement de cette chute de la monarchie. Toute la journée du 10 août se passe ainsi dans l'angoisse. Le canon commence à tonner. Le boulanger refuse de donner du pain à Danton et à Desmoulins. « C'est la faute à votre Camille !» crie une voisine. Par précaution, Lucille et son mari ne couchent pas chez eux ce soir-là. Et le 11, Lucille écrit « On brise les glaces dans le château, on nous a rapporté des éponges et des brosses de la toilette de la reine. » Et le lendemain, elle ajoute ces cinq mots « En rentrant, j'appris que Danton était ministre. » Ah, là, ça sent la promotion pour Camille Desmoulins. Il devient secrétaire général de la chancellerie. Et le voilà qui s'installe place Vendôme, s'il vous plaît. Il écrit à son père. Là, il va se venger. Hein. Il écrit à son père « Me voilà logé au palais des Maupoux et des Lamoignon. Malgré toutes vos promesses que je ne ferai jamais rien, je me vois élevé à ce que le dernier échelon de l'élévation d'un homme de notre, à ce qui était, pardon, le dernier échelon de l'élévation d'un homme de notre robe. La vésicule de vos gens de Guise, si plein d'envie, de haine, de petites passions, va bien se gonfler aujourd'hui. » Dire que quelques années plus tôt, Desmoulins demandait un lit à son père. À cette période, Desmoulins et Danton sont très proches, ils sont assez complémentaires. Le premier était le seul grand chef révolutionnaire pratiquement incapable d'écrire, non par manque de culture, mais par manque de discipline, nous dit Ramirez. Le second, l'un des rares à fuir la tribune comme la peste que ce fut celle de la Convention, celle des Cordeliers ou celle des Jacobins. Autant dire qu'ils étaient complémentaires et qu'ils étaient faits pour travailler ensemble.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission, nous envoyer vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à l'histoire passionnée de Camille et Lucille Desmoulins.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à Camille et Lucille Desmoulins.
Camille, en janvier 93, évidemment, vote la mort du roi. En mai 93, il est dans cette affaire, vous savez, il attaque Brissot et tous ses alliés girondins. Il va contribuer à la chute des Girondins. Il écrit « Je mets en fait que le côté droit de la Convention et principalement les meneurs sont presque tous partisans de la royauté dirigée par les agents de Pitt, qui est le Premier ministre britannique, d'Orléans et de la Prusse. » Et ayant voulu diviser la France en 20 ou 30 républiques fédératives, ou plutôt la bouleverser pour qu'il n'y eut point de république. Ce libelle affreux, dira Michelet, ce roman cruel où l'enfant colère joue sans voir qu'il joue avec la guillotine. Il y a peut-être un côté irresponsable chez Camille Desmoulins, mais c'est la contrepartie de son feu, bien entendu. Il va, à côté de ça, défendre le général Arthur de Dillon en juillet 93, qui est un aristocrate qui a été accusé d'intelligence avec l'ennemi. Il se met à attaquer le comité de salut public. Là, il est déjà un peu sur la mauvaise pente. On se demande si Lucille va le suivre dans ce qui bientôt sera sa chute. « Non, écrit-il, la liberté, cette liberté que j'adore, cette liberté descendue du ciel n'est point une nymphe de l'opéra, ce n'est point un bonnet rouge, une chemise sale ou des haillons. La liberté, c'est le bonheur, c'est la raison, c'est l'égalité, c'est la justice. » Là, les partisans de la terreur, évidemment, vont bientôt lui tomber dessus. Robespierre dira « Camille est un enfant gâté, il avait d'heureuses dispositions, mais les mauvaises compagnies l'ont égaré. Il faut sévir contre ses écrits, mais le conserver parmi nous, je demande pour l'exemple que les numéros de Camille soient brûlés. » Et on va voir peu à peu l'étau se resserrer autour du couple de Desmoulins. Je dis autour du couple parce que même dans la tourmente, et presque surtout dans la tourmente, Lucille suit Camille. Le 31 mars 1794, des soldats arrivent chez les Desmoulins, donc au troisième étage, deux places du Théâtre Français. Camille est là dans sa chambre, il rêve, écrit André Castelot. Par la porte ouverte, il voit sa chère Lucille étendue sur son lit. Dans un berceau dort leur enfant, le petit Horace. Soudain, il tressaille, il entend le pas d'une patrouille. Camille ouvre la fenêtre donnant sur la place de l'Odéon, à l'angle de la rue Crébillon, et regarde, il a compris. On vient m'arrêter. Lucille se jette dans ses bras. Il l'embrasse comme un fou, puis va ouvrir lui-même au policier. En un instant d'angoisse poignante, il revécut là tout son passé. À la fenêtre ouverte, se détachant sur le fond lumineux de la chambre, il vit la silhouette de Lucille, demi-nue, secouée de sanglots, les bras tendus vers lui, l'appelant, lui criant « Adieu ». En tournant le coin de la rue de Vaugirard, il l'entendait encore, puis la voix se perdit dans le lointain. La mort commençait. Il est envoyé au palais du Luxembourg, qui à l'époque, ne nous y trompons pas, est devenu une prison d'État. Il écrit, évidemment, Camille écrit comme il le peut à Lucille. « Je me suis levé pour t'écrire, dit-il, mais ouvrant mes fenêtres, la solitude, les affreux barreaux, les verrous qui me séparent de toi ont vaincu toute ma fermeté d'âme. J'ai fondu en larmes, ou plutôt... j'ai sangloté en criant dans mon tombeau. Lucille, Lucille, ô ma chère, où es-tu? J'avais rêvé une république que tout le monde eût adorée. Je n'ai pas pu croire que les hommes fussent si féroces et si injustes. Et ça va s'aggraver, bien entendu. As-tu pris quelques moments pour endormir ta douleur? Lui écrit Lucille en échange. Mon bon loup, unique bien, bonheur de mon âme, mon ami, calme tes esprits. Songe à ta santé, ta Lucille t'en conjure. As-tu reçu mes cheveux? Oui, elle lui a fait parvenir une mèche de cheveux. Il est jugé au début d'avril 1794 et Lucille le suit encore et toujours. Elle est suspectée à cette époque-là. Le 5 avril, la charrette dans laquelle se trouvent Danton et Desmoulins se dirige vers la place de la Révolution, notre place de la Concorde. Il implore sa femme et son fils. Il a les poignets liés, ce qui fait qu'il demande à Danton de l'aider à extraire de sa poche cette mèche de cheveux que Lucille lui avait envoyée, justement. Au pied de l'échafaud, Desmoulins prie le bourreau de remettre cette mèche aux parents de sa femme. Après sa mort, il crie « Peuple, on te trompe, on tue tes amis. Mon seul crime n'a jamais été que d'avoir versé des larmes. » Et au moment où le fer de la guillotine va s'abattre, on dit qu'il disait encore « Lucille ». Lucille Desmoulins, qui est arrêtée à son tour. Lucille, qui le 13 avril 1794 va suivre Camille. À son tour, elle ira jusqu'à l'échafaud. Je vous l'ai dit, jusqu'au bout, Lucille aura suivi Camille. Bonjour Guillaume Mazo. Nous avons vu cette histoire de Desmoulins un peu par le petit bout de la lorgnette, par le bout conjugal et romantique. On va voir un peu ce qu'il faut en penser sur un plan plus politique avec vous.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est Camille Desmoulins qui est au cœur de l'histoire cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Guillaume Mazo, historien, maître de conférence à l'Institut d'Histoire de la Révolution française.
Alors Guillaume Mazo, tout à l'heure évidemment, nous allons revenir sur le procès de Danton, de Desmoulins, etc. Mais avant cela, il y a une chose qui est un peu étonnante. Pourquoi cette Lucille, qui c'est vrai, suit bien fidèlement son cher Camille un peu partout, pourquoi a-t-elle été jusqu'à le suivre sur l'échafaud? Comment se fait-il qu'on l'ait tout simplement guillotiné? Qu'est-ce qu'on lui reprochait à elle?
Alors, à mon avis, l'exécution de Lucille Desmoulins révèle deux choses. D'abord, si vous me permettez, qu'en fait, un certain nombre de femmes sous la Révolution, elles ne font pas que suivre leur mari. Excusez-moi. En fait, ça montre qu'elle avait un engagement politique depuis longtemps. Lucille Desmoulins, elle connaissait Sylvain Maréchal, elle connaissait Stanislas Fréron, qui étaient quand même des révolutionnaires assez radicaux. Elle avait une pensée politique. Donc finalement, le fait de l'amalgamer comme ça à son mari et de la faire exécuter en compagnie d'ailleurs du général Lyon, etc., ça montre qu'on la reconnaissait comme une actrice politique. Et puis ça révèle une deuxième chose à mon avis, c'est un peu, oh, quand même, c'est ce contexte très particulier de peur, de terreur, au sens d'émotion, hein, qui saisissait la Révolution à ce moment-là et qui faisait que les conspirations, les rumeurs de conspiration, évidemment, se propageaient un petit peu partout et ont fini par emporter une partie des acteurs.
Alors elle faisait partie de la très bonne société, qui était vraiment les privilégiés de l'ancien régime. C'était pas le cas vraiment de la famille de Camille, qui est une famille plus modeste. C'est intéressant de voir que justement, ce sont souvent ces professions juridiques qui ont fait la Révolution d'une certaine manière. Il y a beaucoup d'avocats, de procureurs, de lieutenants au bailliage, etc.
Et oui, c'est vrai, dès le début de la Révolution, ceux qui sont reconnus comme les porte-parole, ben évidemment, c'est ceux qui savent écrire, ceux qui savent s'exprimer en public, ceux qui savent défendre des causes. Et c'est vrai qu'ils ont été considérablement surreprésenté. Hein, Robespierre, avocat déjà connu à Arras, hein, avant la Révolution, etc., etc. C'est vrai qu'ils ont, voilà,
Mirabeau, évidemment, voilà. On pense à tous, Danton, bien sûr.
Oui, enfin. D'où le décalage assez rapide, parfois d'ailleurs, avec les classes populaires, parce que finalement, quand on vient de la bourgeoisie, qu'on prétend incarner les revendications populaires, alors, parfois un fossé se creuse.
Eh bien ça, c'est exactement, à mon avis, le destin de Camille Desmoulins que vous êtes en train de décrire. C'est ça qui est intéressant. Il me fait penser, je ne citerai personne à ce micro, mais il me fait penser à certaines personnes que je connais bien, qui justement sont issues de milieux très privilégiés, qui se mettent à la tête de combats, qui sont des combats ou des revendications revendications très populaires, il y a toujours là un décalage. Ça va le poursuivre toute sa vie, en quelque sorte. C'est-à-dire que il est plein de fougue, il est plein d'idéal, etc. Mais bien souvent, il est dépassé par les événements. Il est poursuivi, rattrapé et dépassé par les événements.
Là, vous décrivez finalement presque toute l'histoire de ce qu'on a appelé la dynamique révolutionnaire. C'est-à-dire qu'une révolution qui s'est radicalisée petit à petit en faisant intervenir des classes populaires, des sans-culottes, des porte-paroles de plus en plus radicaux. Et c'est vrai qu'une partie de ceux du début, des stars du début, de ceux qui prennent la parole du début, se font un petit peu dépasser sur leur gauche, puisque ça va dans ce sens-là, hein, jusqu'en 94. Et Desmoulins en fait partie. Hein.
Alors, on l'a appelé l'homme de la Bastille. Est-ce que c'est vrai qu'il a pris ses feuilles aux ormes, je crois, du jardin du Palais Royal?
Des platanes.
Des tilleuls.
Des tilleuls.
Pour s'en faire une cocarde verte, on va y arriver, la botanique et nous, ça fait deux, visiblement. Mais il s'en est fait une cocarde verte et il a appelé à l'insurrection et à la prise de la Bastille. Ou est-ce que c'est une réécriture a posteriori?
Non, alors oui, il a complètement réécrit son histoire. Ouais. D'autres s'en sont chargés pour lui. Parce que c'est un des seuils montagnards, quand même. Ça a été un protagoniste de la dictature de Salut Public, mais il a une bonne image. Alors, même si elle a été retravaillée, c'est pas faux. C'est-à-dire qu'il savait pas trop parler, mais ce jour-là, il a un talent pour s'imposer au cœur des événements. Hein. C'est-à-dire que parmi ces dizaines de gens-là qui montent sur les tables, etc., au Café de Foix, au Palais Royal, c'est lui qu'on remarque. Il prend une feuille, il la met un petit peu sur son chapeau, il trouve une sorte d'insigne quoi, révolutionnaire qui s'imposera comme une cocarde. Et puis c'est vrai que, alors à travers un discours très très radical, il sait profiter d'une situation pour se faire remarquer. Les révolutions font surgir comme ça, hein, des hommes nouveaux, il en fait partie, il a ce talent de s'imposer dans l'action directe.
Et il a un talent qui, évidemment, nous paraît à nous très moderne et nous parle. C'est un talent de journaliste, en fait. Il sent l'événement, il est presque en avance de l'événement et les éditoriaux qu'il écrit, les textes qu'il publie, sont presque prophétiques d'une certaine manière. C'est assez étonnant. Il a 24 heures d'avance sur l'événement.
C'est quelqu'un qui sait lire l'actualité et qui sait saisir le pouls des événements. Et c'est vrai qu'il se fait connaître, alors non seulement par ce discours du 12 juillet qui commence les trois glorieuses, on pourrait dire, les trois journées de la Révolution qui mèneront à la prise de la Bastille, mais aussi il se fait connaître en publiant. Hein, en publiant son premier pamphlet, c'est La France libre, alors qui n'a rien à voir avec, avec l'autre France libre de la Seconde Guerre mondiale, mais qui montre que, selon lui, en tout cas, dès l'été 89, la France est libérée. Pour lui, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est libéré de la monarchie. C'est très en avance. Il fait partie des très rares républicains.
Voilà, c'est ça. Non, mais c'est fondamental. Parce qu'à la limite, son engagement politique se révélera assez modéré, somme toute. Il mourra de sa modération. On verra jusqu'où, ça, justement. Oui. Mais à côté de ça, c'est sur un plan institutionnel, c'est un républicain pur et dur. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais au moment où il monte à la tribune de la Convention pour annoncer le verdict qu'il réserve au roi, ce que devaient faire donc tous les députés qui passaient l'un après l'autre et devaient dire pourquoi ils se prononçaient, est-ce qu'ils étaient pour le bannissement, etc. Lui dit la mort et il dit beaucoup trop tard pour l'honneur de la Convention. Ça, c'est assez terrible. C'est-à-dire qu'il aurait été pour qu'on tue le roi tout de suite. C'est assez inouï.
Oui, en tout cas, là, c'est en 89, il ne le pense pas comme ça. Il pense que la monarchie est un mauvais régime et il n'appelle pas du tout à l'exécution du roi. Il refait l'histoire des monarchies en disant que finalement, il y a très peu de rois qui ont su régner de manière juste. Que la monarchie est par nature une tyrannie, un despotisme, et qu'une république est possible. Alors, en plus, ce qui le distingue des autres, c'est qu'il a une vision internationale des événements. Il sait très bien, vous savez, à la fin du XVIIIe siècle, la France n'est que la dernière de toutes les révolutions. Il y a eu évidemment l'Amérique.
C'est très important de le dire.
Il y a eu la Hollande, enfin les Provinces-Unies. Il y a eu le Brabant, c'est-à-dire la Belgique. Et lui, voilà, il pense tous ces événements-là ensemble et il dit il existe des républiques qui sont grandes, les Provinces-Unies, les États-Unis. Et donc, pourquoi pas en France? Jusqu'ici, on pensait que les républiques ne pouvaient vivre que dans des petites cités-États, vous savez, comme la Grèce antique. Hein. Et lui, il dit non, c'est possible.
La Corse de Rousseau.
Voilà, c'est ça. Non, lui, il dit c'est possible et très très tôt, il dit ça.
Et non seulement pour lui c'est possible, mais ça doit être mis en œuvre en quelque sorte. Ouais. Alors il ne sait pas comment, parce que c'est pas un praticien, mais en revanche c'est un théoricien de l'action, ça on peut le dire. Et donc d'autres vont s'inspirer de ce que lui écrit, c'est ça qui est étrange.
Exactement, alors voilà, c'est le propre de ces journalistes. Moi je pense à Marat évidemment, et son ami du peuple. Je pense à Loustalot, aujourd'hui on le connaît moins, mais il était presque aussi connu que Desmoulins au tout début de la Révolution, puis il est mort en 90. C'est-à-dire ces journalistes qui sont pas des simples journalistes au sens dont on va... excusez-moi, c'est pas péjoratif, mais ils n'expliquent pas les événements. Ils ont à ce moment-là une sorte d'ambition d'inspirer l'action. Alors, ce qui est assez différent de la conception du journalisme d'aujourd'hui. Et effectivement, il fait partie de ces gens-là. Et en valorisant l'action, et parfois, c'est son discours de la lanterne aux Parisiens, par exemple, en disant, voilà, finalement, la justice, la violence populaire, on peut l'expliquer, elle a des raisons.
Il est plutôt ce qu'on appellerait aujourd'hui un éditorialiste d'opinion, en fait.
Hein. Exactement.
C'est plutôt ça qu'un journaliste.
Oui, il prend la parole. Voilà. Oui, c'est ça.
Il dénonce constamment ce fameux complot aristocratique. Alors ça, ouais. C'est un terme, ça fait partie de ces mots qu'on lit tout le temps quand on parcourt la littérature révolutionnaire. Qu'est-ce que c'est que ce fameux complot aristocratique que les Desmoulins voient partout ?
Alors ça vient de loin en fait. C'est pas les révolutionnaires qui l'ont inventé, c'est dès les années 1750, à cause d'une société qui est profondément inégalitaire, qui est profondément
très corrompu. Hein, il faut
très
dire.
Corrompu. Desmoulins, s'il atteint Louis le Grand, c'est pas la méritocratie à ce moment-là. C'est qu'il est bon élève, mais surtout qu'il a des appuis, que quelqu'un peut le placer là. Sinon, il aurait beau être très bon élève, il serait jamais arrivé là. Et donc, dès les années 1750, se développe l'idée que les aristocrates non seulement veulent le pouvoir et veulent le garder et la richesse, mais en plus qu'ils veulent tuer le peuple. Et donc les révolutionnaires héritent un petit peu de ce schéma de représentation et en plus ça rencontre quelque chose de vrai, c'est que dès l'été 89, eh bien une partie des aristocrates veulent évidemment arrêter la révolution
ils
par les moyens les plus violents.
Oui, voilà,
je veux dire, ils veulent effectivement une répression forte et massive de ces révolutionnaires qui se battent pour un autre régime.
Alors il y a cet événement dont on ne parle jamais et c'est dommage parce qu'on évoque toujours bien sûr la prise de la Bastille le 14 juillet 89, le sac des Tuileries le 10 août 92, mais on oublie cette fusillade du Champ de Mars, oui. Le 17 juillet 91, qui va avoir des conséquences fondamentales. De quoi s'agit-il en deux mots ?
Alors en deux mots, la fusillade du Champ de Mars, c'est la première fois que des révolutionnaires tirent sciemment, en utilisant la loi martiale, sur d'autres révolutionnaires qui sont plus radicaux.
Changement de programme.
Voilà, on est juste après la fuite du roi, et évidemment, la fuite du roi provoque une radicalisation de ceux qui, autour des Cordeliers, je pense, hein, et des Républicains, disent « c'est fini la monarchie, on ne peut plus faire confiance au roi parce qu'il ne nous joue pas le jeu, il a essayé de nous trahir, de trahir son pays ». Et les révolutionnaires plus modérés, au contraire, disent « non, il faut réintégrer le roi dans le jeu politique ». Et à ce moment-là, donc, interdisent une manifestation qui a lieu le 17 juillet à Paris et font tirer sur la foule. Voilà, et ça a des conséquences vraiment énormes. Ça clive, ça crée des fossés dans la Révolution.
C'est un peu l'épreuve du pouvoir, d'une certaine manière. Et là, bien sûr, on peut imaginer que Camille Desmoulins est, j'allais dire, du bon côté.
Alors, oui, bien sûr, oui, il est du bon côté. C'est-à-dire qu'il est évidemment contre le fait qu'un Lafayette puisse faire tirer sur la foule. Voilà. Et là, évidemment, son destin va se radicaliser autour des Robespierre et des Danton.
Alors justement, jusqu'où est-il allé ? Est-ce qu'il mérite cette réputation de modéré qui tout à l'heure vous a fait ouvrir de grands yeux ? Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, de Camille Desmoulins, avec votre invité Guillaume Mazot, historien, maître de conférence à l'Institut d'Histoire de la Révolution française.
Alors Guillaume Mazot, j'aimerais essayer de comprendre un peu quel est le positionnement politique de Camille Desmoulins. C'est très difficile parce qu'évidemment, à mesure qu'on avance dans les événements révolutionnaires, la situation, comment pourrait-on dire, le paysage politique, pour employer un terme actuel, se déporte de plus en plus. Actuellement, c'est de plus en plus à droite. À l'époque, c'était de plus en plus à gauche. Donc, il faut arriver à suivre d'une certaine manière. On va des prises de position qui sont de plus en plus radicales.
Oui, la trajectoire de Desmoulins, elle est vraiment intéressante parce qu'elle montre toutes les contradictions dans lesquelles les acteurs de la Révolution sont pris hein, complètement. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quelqu'un qui est très radical de la Révolution, hein, donc un des premiers républicains pour que le peuple participe vraiment à la Révolution, pour que le régime soit vraiment démocratique et que ce soit pas simplement républicain. Il participe à la dictature de salut public. En tout cas, il la soutient. Hein. Puis après, il est député, etc.
Mais il faut le dire, ça, parce
qu'il est aux côtés de Robespierre.
Il en sera la victime, mais dans un premier temps, il en a été le laudateur.
Mais, évidemment. Hein, évidemment. Ouais. Et dans un contexte de guerre où il pense que pour défendre la République qui est très jeune et très fragile et menacée de toutes parts, y compris à l'extérieur et à l'intérieur, il faut suspendre provisoirement les libertés et il faut installer une dictature provisoire comme sous la Rome antique, si vous voulez. Bon. Donc ça y est. Voilà, il pense que la violence populaire est une forme de justice parfois, etc. Donc il est très très radical. Voilà. Et puis petit à petit, il va se désolidariser de Robespierre, il va se désolidariser aussi, surtout des beaucoup plus radicaux que sont ceux qu'on appelle les hébertistes, qui sont très proches des sans-culottes. Et là, on assiste à des moments qui sont assez classiques dans la Révolution, de bascule, où il devient le modéré, il devient même le contre-révolutionnaire aux yeux de certains. Et il le fait en assumant ça, lui. Donc ça, il ne manque pas de courage. D'ailleurs, depuis le début de la Révolution, il ne manque pas de courage.
Il a toujours été à contre-courant, finalement.
D'une certaine manière.
Au début, il était parmi ceux qui voulaient aller plus loin, et au moment où ça va trop loin, il fait partie de ceux qui voudraient freiner les choses.
Exactement. Voilà. Donc, à ce moment-là, il décide de ne pas aller plus loin. On est fin 93, et là, comme toujours, c'est par les journaux qu'il s'exprime. C'est un député à la Convention qui n'est pas forcément très doué pour prendre la parole, comme on l'a déjà dit. Donc, il s'exprime par les journaux et publie un journal qui s'appelle Le Vieux Cordelier. C'est tout un programme. C'est-à-dire qu'il se présente là comme une sorte de vétéran. Le vieux cordelier, hein, celui qui a vécu, qui regarde un petit peu ces années de la Révolution qui ont précédé en disant on est allé trop loin, il faut arrêter cette violence-là, elle est plus nécessaire, elle est même plutôt néfaste à la République.
On a dit qu'il y avait autour de lui des gens, on parlait de corruption tout à l'heure, qui n'étaient quand même pas parfaitement probes. Je pense évidemment à Fabre d'Églantine avec l'affaire de la Compagnie des Indes. Et il y a eu bien sûr toutes les accusations contre Danton lui-même. Quelle était sa position, lui, vis-à-vis de toutes ces affaires, si
Alors,
je puis dire.
C'est vraiment intéressant parce que très vite, Desmoulins, c'est un de ceux, par exemple comme Marat, qui vante les mérites de la dénonciation. C'est-à-dire, c'est pas la délation. La dénonciation, c'est le fait de dénoncer des gens qui sont corrompus de manière publique et surtout pas anonyme.
C'est-à-dire oui.
Voilà, on dit qui on est.
Oui, c'est pas le corbeau.
Voilà, donc c'est un acte de vertu républicain et citoyen. Et d'ailleurs, il l'a fait contre Brissot.
Contre les Girondins.
Jean-Pierre Brissot démasqué. Il a publié des choses comme ça. Voilà. Et puis, il devient... C'est tout le problème de la vertu et de la transparence pendant la Révolution. Il devient lui-même la cible de ça, dans un climat de suspicion. Et on l'accuse d'avoir frayé avec Fabre d'Églantine, de s'être mis plein d'argent dans les poches, dans l'affaire de liquidation d'une grande compagnie, qui était la Compagnie des Indes, etc.
Quand on dit grande compagnie, parce que tout ça nous paraît lointain, mais on est dans quelque chose d'extravagant. Imaginez les cinq plus grosses boîtes du CAC 40 d'aujourd'hui, qui seraient... Donc on parle là de sommes gigantesques,
C'est une société, c'est le capitalisme naissant.
C'est
mondialisé,
ça,
oui. Donc voilà, cette compagnie se fait liquider à la fin de l'année 1793. Et alors c'est assez opaque la manière. On connaît pas bien encore la manière dont ça s'est passé, mais on l'accuse. On l'accuse aussi d'avoir des relations amicales avec Sulot, par exemple, un ancien contre-révolutionnaire. Eh bien, on ne sait pas encore. On pense que probablement pas, qu'il était assez vertueux. Ça n'a jamais été prouvé. Ce qui est intéressant, c'est que ça révèle à quel point le discours de la vertu peut être à double tranchant. Ils peuvent se retourner, devenir une arme d'instrumentalisation.
Finalement, tout ce qui ressort de ça, c'est pas une forme d'inconséquence un peu. On a l'impression qu'il parle un peu plus vite. Je vais être un peu provocant, vite qu'il ne réfléchit ce cabinet.
Moi, je dirais pas inconséquence. Je dirais que quand on est pris dans une révolution si radicale que celle de la Révolution française, où les événements s'enchaînent de manière si incontrôlable. En fait, c'est très très difficile. C'est très très difficile de savoir quel choix faire. Moi, ce qui m'apparaît dans la conduite de Desmoulins, c'est à quel point il est resté plus que d'autres. Au contraire, assez fidèle à ses opinions. C'est-à-dire qu'il a tenu ces opinions-là dans un paysage qui lui évoluait. Ce qui explique que, au début, il était radical, à la fin, il est plutôt modéré. Mais il a tenu, il l'a payé de sa vie. Il n'a pas hésité à le faire. À mon avis. Ça peut être une forme suprême de vertu politique, ce genre de choix.
Enfin, quand même, entre nous soit dit, voilà quelqu'un qui fait carrière, qui vote la mort du roi, qui plus tard est accusé, alors qui va dénoncer partout, comme vous dites, notamment le complot aristocratique, etc., qui ensuite sera au contraire accusé de différentes affaires, qui va tomber avec Danton au cours d'un procès dont on va dire un mot, là, qui a été un vrai simulacre de justice, évidemment. Qui devrait, d'une certaine manière, avoir une image assez dégradée. Et Dieu sait que la plupart des grands leaders révolutionnaires se sont fait, si je puis dire, beaucoup d'ennemis. Et l'historiographie est souvent un peu dure avec eux. Eh bien, de son vivant, il était un peu le chouchou de tout le monde, il faut dire. On l'aimait bien, Camille Desmoulins. Et même maintenant, deux siècles et quelques plus tard, il continue d'être un peu le héros positif de la Révolution. Comment vous expliquez ça ?
Alors, il y a des raisons historiques à ça. C'est qu'après la mort de Robespierre, Ceux qui ont gardé le pouvoir, les Montagnards qui ont gardé le pouvoir après l'été 94, n'ont pas tellement tapé sur Desmoulins parce qu'il était vu comme la victime de Robespierre. Donc c'était pour mieux salir la mémoire de Robespierre. Au contraire, on a un petit peu préservé celle de Desmoulins. Et puis il reste le jeune homme du Palais Royal. Il y a une image évidemment un peu romantique.
Quoi, oui.
Et puis son amour,
et puis sa femme,
frustré
et tout ça,
voilà. Pendant longtemps frustré avec Desmoulins, avec Lucille, a un petit peu finalement redoré son image, même si je sais que, par exemple, les gens de Guise, hein, où il y a une statue en l'honneur de Desmoulins, militent parfois. Il y a une association là, qui milite pour qu'il y ait une statue de Desmoulins au Palais Royal, etc. C'est toujours pas le cas. Je crois qu'il reste quand même un petit peu associé
un petit peu sulfureux, à
la violence populaire, etc. Ce qui explique son image controversée.
On ne va pas faire maintenant le procès de Danton, évidemment. C'est un très grand sujet. D'ailleurs, ça ferait l'objet d'une émission passionnante. Mais il a été, alors là... happé par la machine, si je puis dire. C'est fascinant de voir à quel point, déjà, Danton est complètement dévoré, mais lui, il ne touche pas terre, si je puis dire. Il est complètement...
Et oui. Et il se fait emporter un petit peu par la dynamique révolutionnaire. Alors, ce procès, c'est comme tous les procès qui se déroulent depuis le printemps 1793.
Des procès... Du 2 au 5 avril 1994, voilà. Donc à l'époque on disait du 12 au 16 Germinal en 2.
Hein. Des procès, c'est des procès politiques, hein. On est dans le cadre d'une justice d'exception, c'est-à-dire c'est dérogatoire au droit commun, dans le cadre d'une dictature collective, mais une dictature. Alors en même temps, malgré tout, c'est pas complètement un simulacre de procès dans la mesure où cette loi qui est issue d'une convention, d'une assemblée qu'on peut critiquer, malgré tout, il se déroule selon les règles. Parfaitement selon les règles. Voilà. Donc on est dans un processus de transition politique très compliqué.
Sur un plan purement formaliste. Parce que, alors je sais pas, j'ai peut-être défenseur. Été déformé moi par
la... Il y a des avocats, il y a des... Ouais. Ça restait malgré tout. Comment dire,
c'est, le procès est public.
Il y avait un droit, il y a un procès public.
Danton a pu s'exprimer et d'une façon extraordinaire.
Ils ont eu un avocat, le procès... Tout ça, ça n'existait pas sous la monarchie absolue. Il faut le répéter. Ça, on ne fait pas un procès démocratique pour autant du tout. Mais voilà, il faut savoir de quoi on partait.
Oui, voilà. En même temps, alors je vous dis, j'ai peut-être été déformé par mes vieux souvenirs de la caméra Explore le temps où on voyait dans La liberté ou la mort, on voyait Danton qui essayait de s'exprimer. Et c'est ce tribunal absolument abject qui lui fermait constamment la bouche, etc.
C'est des caricatures.
C'est un peu excessif.
Bien sûr. Ouais. Oui. Non. Alors, les jurés, le procureur du tribunal révolutionnaire étaient évidemment au service d'un régime qui n'était pas du tout démocratique, mais ils appliquaient la loi de la manière la plus stricte dans le cadre de leur action qui était... Voilà.
Il faut
penser comme ça, je crois.
Il avait été proche de Robespierre, il en a été l'ennemi, ouais. Il en a été la victime.
Ouais.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que d'une certaine manière, post-mortem, il en a été un peu le triomphateur, car on s'est servi aussi des propos de Desmoulins contre Robespierre au moment de Thermidor?
Oui, c'est sûr que Desmoulins a servi à salir davantage la mémoire de Robespierre, qui reste quand même une sorte de monstre hein, dans la mémoire nationale, d'ailleurs complètement, de manière complètement caricaturale, ce qui n'était pas du tout comme ça. Robespierre... pendant longtemps, a essayé de préserver d'ailleurs son ami hein, Desmoulins. Pas parce que c'était tellement son ami, mais parce qu'il ne s'attachait pas tellement aux hommes. Lui, il combattait les idées, Robespierre. Et il pense à un moment donné que Desmoulins devient dangereux pour la République. Hein. Et à ce moment-là, dans un souci de préserver la République, eh bien, il élimine tous ceux qui sont à sa droite, tous ceux qui sont à sa gauche. Et il essaye, Robespierre, de construire une sorte de milieu très fort en France. Hein. Un milieu radical qui n'a pas marché puisque quelques mois plus tard, c'est lui qui s'en va.
Eh bien, j'espérais que cette émission nous permette d'y voir plus clair sur les méandres et les arcanes de cette compliquée révolution française. Grâce à vous, Guillaume Mazot, je crois que nous y sommes parvenus aujourd'hui. Merci.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Salima. Elle nous l'a envoyée via la page Facebook de l'émission et elle voudrait connaître l'origine des autoroutes.
Alors, je vais vous refaire à 14h57 ce que j'ai fait à 6h25 il y a quelques jours. Ces autoroutes sont nées au tout début du XXe siècle, en 1909, que le concept, si je puis dire, apparaît en Allemagne. À l'époque, c'était l'Automobilverkehrsundbundstrasse, la FUS, qui se trouvait donc à l'ouest de Berlin. Il y a eu la Première Guerre mondiale entre les deux, ce qui fait que l'autoroute, si je puis dire, n'a été inaugurée qu'en 1921, mais c'était un circuit d'automobile professionnel. Les particuliers n'y étaient quasiment pas admis. Il va falloir attendre un peu plus tard pour qu'on ait la première véritable autoroute. Ça, c'était en Italie. C'est le roi Victor Emmanuel III qui l'a inaugurée en septembre 24. On est dans la région des Lacs, hein, tout à fait au nord de l'Italie, et c'était l'ingénieur Piero pour Richelieu qui avait créé cette toute première autoroute, un projet pharaonique, 110 km, 3000 expropriations nécessaires, ça avait coûté des centaines de millions de lire, enfin quelque chose d'absolument immense. Alors, d'ailleurs intéressant, l'autoroute en question était financée par des péages et il n'y avait bien sûr aucun croisement. Hein. Il y avait des systèmes de ponts et de tunnels comme sur nos autoroutes actuelles. En France, c'est un peu plus tard. La toute première autoroute en France, elle naît en 1926. C'est un tronçon de la route touristique du Puy-de-Dôme, mais c'est un peu comme la Fousse à Berlin. Ça n'est pas, on ne peut pas parler d'une autoroute dans le sens moderne actuel du terme. Le véritable premier tronçon autoroutier, il est né en France en juin 1946. Il reliait Saint-Cloud à Orgeval et aujourd'hui, il est complètement intégré dans l'autoroute A13.